Et là, on a Simon en studio qui est prêt à nous parler des apatrides anonymes. Donc, cette semaine, on va entendre parler de la psychose actuelle au Québec et au Canada sur l'entrevue Charkaoui-Dussault, retour aussi sur la réforme de l'immigration aux États-Unis et un topo apparemment sur les centres de détention en Angleterre. Ça a l'air bien gai, tout ça.
Comme toujours.
Oui, c'est ça.
Donc, bonjour Gabriel, bonjour tout le monde en studio et ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu m'as présenté comme sujet? Tu as parlé d'États-Unis, d'Angleterre?
Ben là, moi, j'ai juste répété ce que tu m'avais envoyé, là.
OK, donc, on va détailler tout ça. De toute façon, en fait, je viens un peu compléter ce dont on a parlé dans les dernières chroniques. Donc, Mathieu, dans sa précédente chronique, nous a parlé d'un peu de la psychose islamophobe et sécuritaire au Québec, surtout en lien avec le projet de loi conservateur C-51. Toutes sortes de cas de blocage de permis pour des lieux de culte qui visent évidemment toujours la communauté musulmane. Alors, on a un peu atteint le paroxysme, je dirais, de cette... Ben moi, je parle de psychose, je sais pas s'il y aurait un meilleur mot, là, mais de cette vague dans laquelle on vit avec la fameuse entrevue que la plupart des gens ont vue menée par Anne-Marie Dussault contre Adil Charkaoui, ça que si je pourrais dire. Donc, sans résumer l'entrevue, elle est facile à trouver sur Internet. Donc, je vais la résumer quand même un peu. Anne-Marie Dussault insiste à plusieurs reprises pour que M. Charkaoui dénonce fermement l'État islamique. Elle répète ça à nombreuses reprises. Il continue à répéter un peu la même chose, qu'il dénonce toutes les violences, incluant celle-ci. Mais il dénonce aussi plusieurs autres violences. Donc, elle n'est pas satisfaite. Elle lui fait savoir. Donc, elle insiste de manière assez agressive. Donc, c'était extrêmement peu professionnel. Ça me faisait penser, moi, un peu à Fox News ou à CNN. Toujours l'amalgame un peu terrorisme, islam. Charkaoui qui devient un peu la mascotte de la face méchante de l'islam au Québec. Donc, qu'elle surfe, Madame Dussault a comme un peu plus ou moins surfé sur la peur, l'ignorance des gens, les préjugés. Et en soi, moi, je pourrais dire, c'est une opinion, mais qu'elle fait un peu l'apologie du projet de loi conservateur, du projet de loi C-51, un bon petit pantin du gouvernement. Donc, j'ose déclarer Madame Dussault agent de radicalisation en faisant un peu... en jouant sur toutes ces peurs-là, sur les ignorances, donc en attisant la colère de plein de monde contre elle-même, contre Radio-Canada, contre plein d'institutions, contre le gouvernement. Bref, suite à cette entrevue-là, il y a le réseau de la Commission populaire qui a lancé une campagne de plainte auprès de l'Ombudsman de Radio-Canada. Donc, j'inviterai les gens, s'ils sont intéressés à porter une plainte, de soit y aller directement auprès de l'Ombudsman de Radio-Canada ou d'aller voir le site du réseau de la Commission populaire ou de leur écrire pour avoir plus de détails. Ou pour avoir un modèle de lettres. Donc, radicalisation, le terme très à la mode ces temps-ci, un concept de plus en plus récurrent. J'ai un peu l'impression de revivre ce qu'on a vécu lors de la crise des accommodements raisonnables il y a quelques années. Un peu aussi par rapport à ce que le PQ a présenté sa charte des valeurs dites québécoises. Donc, toutes des crises fabriquées par le Parti québécois, par Mario Dumont, par Québécois. Sauf qu'aujourd'hui, le jambon moyen, je dirais, il a pas tant peur à son identité, à sa culture, mais là, il a peur à sa sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de plus en plus de radicalisation. Le service de police de la Ville de Montréal s'y met aussi par la bouche de son agent, de son expert en sociologie, M. Marc Parent. On apprenait récemment que les priorités du SPVM allaient être, et là je cite, « la lutte contre le terrorisme, empêcher la radicalisation des jeunes Canadiens ». Je continue à citer M. Parent. « Les policiers du SPVM s'ajustent à la vitesse grand V pour réussir à stopper la radicalisation des jeunes Montréalais ». On apprenait aujourd'hui même que Denis Coderre allait lancer une nouvelle structure administrative qui va s'appeler « le Centre contre la radicalisation ». C'est pas encore très précis quelle forme ça va prendre, qui vont être les intervenants. Est-ce que ça va être un truc législatif ou un truc consultatif? On ne sait pas encore. Pour ce qui est de M. Parent, moi, j'aurais peut-être des suggestions à lui donner pour lutter contre la radicalisation. Donc, peut-être voir à la radicalisation de ses propres agents au SPVM. Faire face aux allégations très graves, très documentées de profilage racial, social et politique auxquelles son service... fait face, voir aux éléments radicaux qui se trouvent dans son service, donc des problèmes de racisme, de violence chronique, anti-artistes, anti-étudiants, anti-itinérants, anti-militants, anti-personnes défavorisées, des comportements sexistes. Bref, M. Parent devrait faire peut-être le ménage dans sa propre cour avant de, de parler de radicalisation des jeunes Montréalais. Et ça fait des années qu'on lui demande de s'adresser à ces problèmes-là et il n'y a à peu près rien qui se passe. On apprenait aussi récemment qu'au niveau provincial, la très brillante ministre de la Listerio, ministre de la Sécurité publique,
je crois.
Ah
mon Dieu, je sais jamais les noms de personnes.
Ils sont tout le temps changés, ils sont tout le temps ballottés, si on veut, d'un ministère à l'autre. Donc elle qui a à peu près, qui est pas capable de formuler une phrase correctement ou de terminer une phrase, elle faisait partie du voyage royal de Philippe Couillard en France récemment. Donc elle dit qu'elle veut, en tout cas lors de ce voyage, qu'elle voulait étudier attentivement ce qui se fait en France et dans d'autres pays européens sur les programmes de déradicalisation. Donc encore une fois ce terme-là. Donc, on est en sécurité. On verra ce qu'elle va comprendre de ces enjeux extrêmement complexes. La rencontre entre Philippe Couillard et François Hollande, évidemment, c'est le thème de la sécurité qui a dominé les échanges. Et M. Couillard en est ressorti avec un nouveau thème. Donc, pas juste radicalisation, mais radicalisation domestique. Donc, pour ce que ça veut dire, on fera des petites recherches.
Ça, c'est à la maison ou... faire la vaisselle radicalement?
Oui, faire passer l'aspirateur radicalement. Enfin, non, je crois que ce qu'il veut dire, soyons sérieux un peu, là, c'est qu'il parle de personnes déjà établies dans un pays occidental et qui adopteraient des positions extrémistes. Bon, personnellement, moi, en tout cas, je ne crois pas que ce serait en France nécessairement que j'irais chercher l'inspiration pour ce qui est de l'intégration culturelle. Je ne veux pas blesser personne ici, mais ce n'est pas un modèle duquel je m'inspirais personnellement. Il y a quand même des tensions raciales relativement importantes, surtout depuis quelques années. Bref, sécurité, surveillance, fichage, espionnage, contrôle, répression, on assiste vraiment à une escalade, je crois, actuellement, et dans l'opinion publique. N'allez surtout pas lire les commentaires des internautes sur des sites comme Canoë, Radio-Canada, et tout ça, c'est assez hallucinant ce qu'on peut y trouver. Donc, en réponse à cette escalade sécuritaire, je vais laisser M. Charkaoui y répondre lors de son interrogatoire policier par Anne-Marie Dussault. Quand il y aura de la justice sur cette terre, il n'y aura plus de terrorisme. Peut-être. Concernant la France, je vous invite à lire un texte de M. Samir Paul, professeur d'histoire à l'Université de Montréal, un court texte qui s'appelle « La France dans l'œil du cyclone civilisationnel », qui nous propose une très courte analyse qui serait à pousser éventuellement sur ce qui a mené un peu à la France actuelle, qui est de plus en plus polarisée, opaque même à certains niveaux. Donc, c'est un très court texte, mais qui propose des pistes d'exploration sur ce sujet-là. Donc, de la France et du Canada, on va passer aux États-Unis. Avant d'aller plus loin, je veux dire, j'ai appris quelque chose dans la pléthore de textes qu'on peut lire actuellement sur la réforme de l'immigration aux États-Unis. Il y a un pont, un pont en Alabama, dans la ville de Selma, qui porte le nom d'un ancien dirigeant du KKK. Donc, M. Edmund Pettus s'appelle. Donc, son grade au sein du Ku Klux Klan était Grand Dragon. Et il y a un pont routier, c'est un State Road, State Highway, je ne sais pas trop, donc une infrastructure assez importante qui porte son nom. Donc, Mathieu a parlé récemment de la réforme de l'immigration qui a été adoptée, finalement. Donc, on peut s'en rassurer. Ça, c'est un beau geste avec certains ratés, comme des restrictions, des délais supplémentaires, mais quand même, qui est intéressant. Ça avait été bloqué par un juge du Texas. Les Républicains ont essayé de bloquer son adoption aussi récemment, parce qu'on essaie à peu près tous les moyens pour empêcher la régularisation de millions de personnes qui sont non documentées pour la plupart. Donc, les Républicains, pour tenter d'empêcher l'adoption de la loi, ont opposé sécurité intérieure et immigration. C'est un peu compliqué, je m'explique. C'est que pour accepter de voter... d'adopter la loi sur le budget du ministère de l'Intérieur, on exigeait d'abandonner la réforme de l'immigration. Donc, on a un peu joué au poker entre sécurité et immigration. Ça n'a pas fonctionné, finalement. C'est quand même une stratégie étrange, surtout de la part des Républicains. On apprenait, lors de cet épisode-là, que le budget de la sécurité intérieure aux États-Unis est de 40 milliards. Budget qui ne comprend pas les budgets des États, des villes, des entreprises, des particuliers. Donc, je ne sais pas annuellement combien on dépense aux États-Unis en sécurité, mais le budget du ministère de l'Intérieur annuellement est de 40 milliards. Dossier qu'on va suivre, cette réforme de l'immigration qui a été adoptée, ça va être relativement compliqué, ça pourrait être contesté par certains États, donc on verra. Ce serait intéressant de voir au Canada, si éventuellement une telle réforme pourrait pas être proposée. Je ne sais pas par qui actuellement, mais le Parti vert. On a quand même plusieurs personnes sans statut ou non documentées actuellement ici au Canada, et je crois que j'ai jamais entendu parler d'une telle proposition dans notre pays. Donc, je termine avec l'Angleterre, un reportage qui a été diffusé la semaine dernière sur Channel 4. C'est une incursion en caméra cachée dans un centre de détention pour femmes migrantes, donc des femmes qui ont commis aucun crime mais qui sont emprisonnées suite à leur arrivée dite irrégulière, un peu comme on a au Canada. Le centre de détention s'appelle Yarl's Wood. Je vais l'appeler parce que mon anglais n'est pas surtout avec les Y. Là. Donc, Y-A-R-L apostrophe S, Wood Immigration Removal Center. Sur un moteur de recherche, vous faites Yarl's Wood Channel 4. Vous allez trouver un petit reportage d'à peu près 25 minutes qui est très intéressant. On y constate les conditions assez dégradantes dans lesquelles les femmes vivent. On entend le langage ordurier qu'utilisent les employés pour décrire les femmes. Donc, on parle beaucoup de « bitch », de « animal ». C'est pas très joli à entendre. On constate que c'est une prison, en réalité. On appelle ça un « immigration removal center », mais c'est exactement comme une prison. Là. Même qu'Unité 9 a l'air d'un club med là, à comparer. C'est pas très joli. On y constate toutes sortes de situations déplorables, des femmes enceintes brusquées dont on les prive de soins, des femmes vraiment désespérées de l'autoflagellation, des tentatives de suicide, des hommes qui violent l'intimité des femmes. En parallèle avec cet article-là, je recommande un article du Guardian qui s'appelle, attention à mon anglais, « Locking up immigrants diminishes us all ». Donc, on y apprend qu'il y a 11 centres de détention semblables en Angleterre, incluant ceux pour les hommes. 30 000 personnes migrantes détenues actuellement en Angleterre, donc c'est le plus haut taux de tous les pays européens. Le centre qu'on voit dans le reportage, c'est un centre privé, donc qui est géré par une entreprise qui s'appelle Serco, qui est spécialisée dans les prisons privées. On apprend aussi qu'en Angleterre, il n'y a pas de temps limite de détention pour les personnes qui sont emprisonnées. Donc, on donne par exemple l'exemple d'une femme d'origine chinoise qui serait depuis plus de 2 ans. Donc, évidemment, la diffusion de ces images-là a causé un petit scandale en Angleterre. Il y a eu des échos jusqu'au Parlement. Il y a une enquête publique qui va être déclenchée. Une enquête interne de l'entreprise qui gère le centre de Serco qui va être... Je le souligne quand même, là, en désespoir de cause. Il y a un employé qui a été suspendu, donc attention les mesures disciplinaires. Il y a eu un communiqué du Home Office britannique, qui est à peu près l'équivalent du ministère de l'Intérieur en Angleterre, dans lequel on peut lire « Detention is an important part of a firm but fair immigration system ». Donc finalement, on nous dit que pour avoir un système d'immigration juste, ça prend des centres de détention tels que ceux qu'on voit. Et on conclut dans l'article du Guardian en disant que périodiquement, peut-être à toutes les 5 ou 10 ans, l'opinion publique est alarmée. On pousse des hauts cris, certaines personnes se scandalisent, mais qu'il n'y a jamais rien qui change. Donc, sur cette belle note...
Merci beaucoup. On a commencé en beauté. Par contre, au début, tout le monde était mort de rire en studio, mais là, ça s'est
calmé un peu.
Ouais.
Hein? merci beaucoup.
Merci encore une fois. C'est, comme d'habitude, fort apprécié la chronique des apatrides anonymes.